RCF.
La Bible a plusieurs voix. Vous entendrez aujourd'hui les voix de
Marie-Pierre Desfossés,
Jean-Luc Outrette,
Malou Lebars, et merci à Guilhem Tieno qui nous accompagne à la technique. Bonjour à tous, bienvenue à la table de la parole. Nous ouvrons nos Bibles aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, versets 33 à 46. Il est question de métayers révoltés, enfin vous trouverez des titres assez différents. Parfois on aura le titre vigneron homicide. En tout cas, il est question du déploiement d'une certaine violence. Nous sommes toujours dans notre thématique de violence et paix. Et donc là, aujourd'hui, il est question de vignerons, de métayers révoltés qui ne se privent pas de se laisser aller à toutes sortes de violences. Et peut-être pour nous, ça sera aussi l'occasion de réfléchir sur le déploiement de la violence peut-être dans notre monde, quelles en sont les racines et quel est le chemin de paix, ou en tout cas le chemin de libération qu'offre ici un passage comme celui-ci, une parabole que nous allons écouter tout de suite.
Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui les revenaient. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs. L'un, ils le rouèrent de coups. Un autre, ils le tuèrent. Un autre, ils le lapidèrent. Il envoya encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils. » Mais les vignerons, voyant le fils, se dirent entre eux « C'est l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Eh bien, lorsque viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là ? » Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui lui remettront les fruits en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle merveille à nos yeux. Aussi, je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera elle l'écrasera. » En entendant ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur des foules, car elles le tenaient pour un prophète.
Voilà donc cette parabole qui peut-être compose d'une partie qui pourrait être une deuxième parabole, non ? Comment est-ce qu'on pourrait envisager la construction de ce passage que nous venons d'entendre ?
Il y a effectivement une articulation au moment où Jésus intervient une seconde fois en disant « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ?» Et on trouve une nouvelle parabole, et a priori, comme cela, on a du mal à faire le lien avec la première, parce que ça ne parle pas du tout de la même chose.
Oui, alors justement, donc, c'est une parabole un peu particulière. Jésus raconte la parabole, hein, donc ça va jusqu'au verset 42, et même un petit peu avant. Hein, donc, cette parabole-là, on parle de la parabole jusque-là. Mais, si on veut... quand Jésus demande, eh bien, lorsque viendra le maître de la vigne, c'est au verset 40, hein, que fera-t-il à ces vignerons-là ? C'est qu'il leur demande un peu d'imaginer la suite de l'histoire.
C'est vrai ça.
Oui, il leur pose une question, en fait, il les interroge.
Oui, mais ils interrogent sur ce qu'il a raconté, et puis comment vous imaginez la suite de l'histoire. Et donc, ils ont à se prononcer là-dessus, donc c'est assez particulier. Et donc, après la réponse, il va ouvrir un autre chemin, et on avait dit que c'est presque une autre parabole concernant la pierre, les bâtisseurs, la construction, hein, donc voilà. Et donc, à partir du verset 43, eh bien, il est question du royaume, il est question du royaume de Dieu, et donc c'est plus la vigne, mais c'est le royaume de Dieu, hein, qui doit produire des fruits. Et puis la finale, elle est quand même assez inquiétante, parce qu'on se rend bien compte que les grands prêtres et les pharisiens à qui ils s'adressent ne sont pas très contents, mais qu'ils ont des volontés eux-mêmes de violence et de meurtre à l'égard de Jésus, mais qui n'osent pas les manifester à cause
de la foule.
Et parce que la foule tient Jésus pour un prophète. Voilà. Alors, je propose qu'on reprenne maintenant ce début, en tout cas la première parabole, si on veut, hein, la parabole de la vigne et des vignerons. Et nous n'aurons pas le temps, sans doute, de terminer le commentaire de ce passage. Ce sera pour une seconde émission, pour la suite du récit. Mais nous irons au moins jusqu'au verset 40, peut-être. Écoutez. Une autre parabole. Donc Jésus, s'il dit « écoutez une autre parabole », c'est qu'il vient d'en raconter déjà. Donc à quel public a-t-il affaire là ? Il est où ?
Jésus est dans le temple et il s'adresse aux grands prêtres et aux pharisiens.
Alors on ne dit pas au départ aux pharisiens, mais on dit les grands prêtres et les anciens du peuple. Hein, donc, et puis c'est après qu'on se rendra compte qu'il évoque aussi les pharisiens. Donc ce sont les grands prêtres et les anciens à qui il parle. Donc, il y avait un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Donc voilà le verset 33 hein, du chapitre 21 de Matthieu qui ouvre cette parabole. Alors, bon, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
Écoutez d'abord.
Oui.
Donc c'est vrai que le verbe n'est pas anodin. Ça nous rappelle quelque chose, notamment dans le Deutéronome, cette posture de l'écoute. À laquelle Jésus invite en fait ses interlocuteurs.
Oui.
Donc ça c'est déjà un premier point.
Quand vous parlez du Deutéronome, vous voulez dire quoi, Jean-Luc ?
Écoute
Israël, c'est le fameux
Shema
Israël. Écoute, voilà.
Écoute Israël, voilà.
Oui. Donc voilà, il est question de quelqu'un, mais on pourrait dire, si on traduit littéralement, que ce n'est pas nécessairement le mot propriétaire qu'on trouve. Hein. Qu'est-ce qu'on trouve ?
Ça serait plutôt maître de maison ?
Non, c'est d'abord c'est un humain.
Oui, c'est un humain, maître de maison.
Maître de maison, voilà. Oui. C'est intéressant peut-être qu'on se dise aussi, ben voilà, oui. C'est un humain, maître de maison. Oui. Alors, cet humain, maître de maison, il fait quoi ?
Il plante une vigne et puis il met en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que qu'elle croisse dans les meilleures conditions possibles. Elle est protégée. Parce qu'on nous dit qu'il y a donc la clôture, donc il y a aussi un pressoir qui est creusé et une tour pour pouvoir la surveiller de très haut d'ailleurs, parce qu'on nous précise que la tour est haute.
Oui.
Donc tout est déployé pour que la vigne prospère dans de bonnes conditions.
Alors juste une question, est-ce qu'on nous dit que cet humain maître de maison, est-ce qu'il a acheté ce terrain-là ?
Non, on ne nous le dit pas.
Donc en fait, c'est assez intéressant peut-être pour nous de nous attarder là-dessus. On pourrait presque dire qu'il est le fondateur de cette vigne. Et peut-être à travers le terme fondateur, on a peut-être quelque chose de plus profond qui nous vient. Il y a quelque chose à voir avec l'origine de cette vigne. Donc il y a quelque chose qui touche à l'origine, hein. Donc ce sera intéressant de le noter. En tout cas, il met tout son soin, tout le soin pour que cette vigne soit féconde. Tout est en place, tout est organisé, tout est en place. Alors, est-ce que ça n'évoque pas aussi quelque chose qui a été souligné par le prophète Isaïe ? Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète Isaïe ? Au début d'Isaïe, c'est quel chapitre, Marie-Pierre ? Chapitre 5, je crois, non ?
Oui, c'est d'Isaïe. Ça. Oui.
Vous pouvez nous lire ce passage-là, le début ?
Que je chante pour mon ami, le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres et installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour et il creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, il n'en eut que de mauvais.
Voilà, alors là, voilà aussi, donc, tout était en place pour que la vigne produise de beaux fruits. Et en fait, de la part de ceux qui vont cultiver la vigne, eh bien, ce sera de la déception. Il n'y aura rien que de mauvais fruits. Alors ici, il s'agit de cet humain, donc propriétaire, hein, donc de la vigne, maître de la vigne. Il donne en fermage à des vignerons. Et il partit en voyage. Alors, on pourrait même dire que le terme utilisé dans le grec, c'est pas le mot vigneron, alors que ça existe pourtant dans la langue. C'est quoi
On pourrait dire agriculteur ou des gens qui travaillent la terre, en quelque sorte.
Des travailleurs de la terre. Oui. Mais est-ce que ça nous apporte quoi de préciser ça ? Qu'est-ce que ça change ?
Ça fait référence finalement à notre humanité qui sommes issus aussi de la terre.
Voilà, donc
ça, Adam, tiré
oui,
de
ça
la
rappelle
terre.
Adam, en voilà, fait. Hein, ça rappelle le glaiseux.
Nous sommes des terreux, les glaiseux. Et peut-être que justement, le récit va nous orienter un petit peu vers là, mais peut-être aussi que ça a quelque chose à voir avec l'humanité qui est du côté de Caïn aussi, peut-être, quoi. Voilà, il est au champ, c'est son domaine, et puis enfin, peut-être qu'on va un petit peu vite là. Donc. En tout cas, le récit va focaliser sur la redevance qui est fixée par le contrat. Il y a un contrat fixé, et ce contrat-là, c'est qu'il va falloir rendre la redevance, puisque c'est loué en quelque sorte, hein, donc il part en voyage. Et là, bien justement, le drame, enfin je ne sais pas s'il faut parler de drame, mais si quand même, c'est dramatique finalement ce récit.
Oui, oui quand même.
Le drame, il va se dessiner avec l'absence du maître. On nous dit qu'il part en voyage, il part à l'étranger, on ne sait pas pourquoi.
Mais d'un autre côté, il a quand même toute confiance, puisque pour lui, tout est en place et il a confié à ceux qui sont normalement aptes aussi à faire qu'il y ait des fruits.
Que la vigne produise des fruits, voilà. Alors le verset 34, « Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui lui revenaient. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs. L'un, ils le rouèrent de coups. Un autre, ils le tuèrent. Un autre, ils le lapidèrent. » Et bien là, ça se corse quand même. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ça se corse pas mal.
Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe?
Finalement, le temps des fruits, c'est la question de la dette qui apparaît ici.
Oui.
Qui est...
Et ça provoque quoi, cette question de la dette là? Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent tout garder pour eux, quoi. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire.
Ils acceptent sans doute pas en fait d'être redevables justement à ce maître de maison. Et donc voilà, ils pensent pouvoir régler le problème en se débarrassant des serviteurs du dit maître.
Alors les serviteurs, en quelque sorte, ce sont les personnages du récit qui rappelle qu'il y a un maître, qu'il y a un propriétaire de la vigne.
Oui, parce que ce sont ses serviteurs.
Voilà, donc
ils sont très attachés à lui.
Ils sont là pour faire la médiation entre celui qui s'est absenté et eux, et ils n'en veulent pas. Donc la violence véritable se déchaîne là, de façon, on pourrait presque dire, nous ça peut nous choquer peut-être d'avoir cette réaction là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est abusif? Comment vous imaginez ça?
C'est différents types de violences, mais qui sont là pour entraîner la mort.
Oui.
C'est ultime, quand même.
Oui, mais la parabole, elle présente cette violence comme faisant partie intégrante du fonctionnement des vignerons. C'est-à-dire que c'est dans leur fonctionnement, ils ne peuvent être que violents. C'est quand même quelque chose, quoi. Hein, donc, voilà. Donc, eux, ils sont dans cette logique-là. Ben, nous, on ne veut rien avoir à faire avec celui-là.
Ils renient toute relation, en vérité,
oui. Oui.
Avec celui-là. Oui.
Et donc, comme disait tout à l'heure, ils restent enfermés dans le champ de la dette. En fait, c'est vrai qu'ils doivent bien sentir ils lui doivent, mais ils refusent. Mmh. Alors, est-ce que, si on élargit un peu la réflexion, est-ce qu'on pourrait se poser la question, mais est-ce que c'est comme ça tout le temps? Est-ce que c'est comme ça dans notre monde? Qu'est-ce que vous en pensez?
Malheureusement, oui. Malheureusement, on a souvent ce regard assez terre-à-terre, et puis de se penser autosuffisant. De pouvoir faire tout par nous-mêmes, par nos propres forces. On est toujours dans une notion de mérite et on a beaucoup de mal à se rendre compte à quel point on est dépendant, effectivement, de quelqu'un qui pourrait nous être supérieur, en fait.
Oui, voilà.
Ou auquel on doit tout, y compris nos vies, nos propres vies.
Oui, voilà. Et donc, là aussi, refuser qu'on nous a... qu'on ne soit que des locataires
quelque part, oui.
et pas des propriétaires, c'est difficile, hein, donc et voilà, donc je crois que cette logique de la dette, elle peut être terrible parce que c'est elle qui engendre la plus grande violence. Alors on nous dit ensuite que le maître de maison, on pourrait se dire, il est quand même assez confiant, parce que verset 36, il envoya encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, ils les traitèrent d'eux-mêmes. Bon.
Alors, c'est phénoménal quand même, parce qu'en fait, un maître de maison habituel, il aurait eu tendance à se fâcher un petit peu quand même, puisque...
Déjà à ce moment-là, oui.
Je sais pas, enfin, on mesure à quel point c'est pas un maître de maison anodin, quoi, c'est pas...
Il n'est pas tout à fait comme on se l'imagine, quand même, parce qu'il envoie d'autres plus nombreux la même. Et puis là, la violence se déchaîne de la même façon. Bon, voilà, je vous propose une petite interruption musicale. le chapitre 21 de Matthieu, nous lisons le passage concernant les vignerons homicides, donc un passage qui va du verset 33 à 46, et nous en étions donc au verset 37. Donc la violence des vignerons, enfin des travailleurs de la terre, s'est manifestée à l'égard de des serviteurs que le maître de la vigne a envoyés pour récolter le fruit de la vigne. Et on s'était étonné de ce déchaînement de violence incroyable. Donc, ils ne veulent pas avoir affaire avec le propriétaire de la vigne. Mais au verset 37, finalement, il leur envoya, donc le propriétaire maître de la vigne, il leur envoya son fils en se disant, ils respecteront mon fils. Alors, on est presque étonné aussi quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
On est étonné. On est surtout étonné que ce maître de maison, c'est un père aussi.
Oui, on apprend qu'il est père, du coup.
Voilà.
C'est comme s'il il avait perdu cette qualification d'être propriétaire de la vigne pour devenir père. Mais donc, est-ce qu'il n'est pas un petit peu naïf quand même?
Oui. On disait déjà qu'il n'était pas, enfin, je veux dire, il n'avait pas il renaclait pas devant la violence de ces vignerons, puisque il y a quand même deux fois de suite des serviteurs qui sont morts.
Oui.
Il aurait pu évidemment demander à sanctionner ces vignerons. Il ne le fait pas. Il persiste, et non seulement il persiste, mais il leur envoie son fils. C'est quand même extraordinaire, oui.
Et alors, qu'est-ce qu'il attend quand il envoie son fils? Est-ce qu'il est question que le fils aille récolter les fruits de la vigne?
Non, il n'est plus question des fruits ici. Il attend seulement le respect.
Le respect du
fils. De la filiation.
Voilà. Donc, c'est très intéressant parce que ce que le père attend pour son fils, ce sont des égards de la part des vignerons, c'est-à-dire le respect de sa condition de fils. Et du coup, la question de la redevance, elle est passée à la trappe, hein. Donc, c'est comme si la remise des fruits, c'était simplement de reconnaître la relation filiale. Voilà. Et reconnaître la relation filiale. Reconnaître le fils et reconnaître que derrière, il y a un père. Mais les vignerons, ils ne vont pas entrer dans cette perspective-là. Qu'est-ce qu'ils vont voir quand ils voient le fils?
Eux, ils voient uniquement l'héritier, c'est-à-dire le bien.
Ils voient l'héritier et puis ils se disent, voilà, nous allons prendre l'héritage. Voilà, ça c'est le verset 38. Mais les vignerons voyant le fils se dirent entre eux, c'est l'héritier, venez, tuons-le, emparons-nous de l'héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Voilà.
Il reste en fait dans ce registre matérialiste, dans cette logique en fait, de la redevance, ils vont pas finalement la quitter, même ils sont invités au respect de ce fils, et en fait ils vont garder les yeux tournés vers la terre, et le fils il ne le voit effectivement que comme un trésor à récupérer.
Mais en soi, c'est même aberrant, puisque un héritage, ça se transmet dans la relation filiale, donc de toute façon. Mais ils veulent accaparer, hein, donc voilà. Donc en fait, le récit nous montre qu'ils sont toujours dans cette logique de violence. C'est vraiment, ils ne peuvent pas agir autrement que conformément à la violence qui les habite. C'est assez terrible quand même. Et nous avions dit tout à l'heure que c'est aussi une violence qui est à l'œuvre dans le monde quand même. Il ne faut pas que nous imaginions que ce sont seulement ceux-là.
Oui, oui.
Et puis imaginez que c'est seulement les pharisiens ou les grands prêtres des anciens qui reconnaissent pas les prophètes et qui reconnaissent pas, c'est à l'œuvre dans le monde, donc en chacun de nous. Hein,
complètement,
donc,
et ça génère cet aveuglement en plus, parce que, comme vous le disiez Malou, en fait, ils peuvent pas hériter légalement, ils pourront pas hériter, mais ils sont quand même, il y a une espèce d'avidité, ils sont complètement, c'est quelque chose de viscéral chez eux, et effectivement, on peut rencontrer ça dans notre monde actuellement, bien sûr.
Oui, parce que finalement, on ne veut rien devoir, on veut être sa propre construction, être à sa propre initiative.
Et quitte à écraser l'autre. Et donc ici, petit détail peut-être qui nous surprend, pourquoi faut-il qu'il jette le fils, qu'il le tue en dehors de la vigne? Pourquoi est-ce que c'est précisé que c'est en dehors de la vigne ?
Il ne faut pas qu'il y ait de traces, en fait, de cet autre contrat, en quelque sorte, si on peut employer le terme, qui n'est plus tout à fait adéquat par rapport à cette recherche de relation. On dirait ce nouveau paradigme de relation. Et il ne faut pas qu'il y ait de traces. Donc, il rejette le fils en dehors de la clôture. Voilà.
Et donc peut-être que justement dans la Bible, il y a un autre récit où quelqu'un reste attaché à la vigne, à la vigne qui représente ce que Dieu donne et qui va être tué aussi et son corps sera jeté hors de la vigne. Ça fait penser à qui ?
Ça nous fait penser à Naboth dans Isaïe.
Dans le premier livre des rois, au chapitre 21, le fameux Naboth, qui effectivement, au terme d'un procès monté de toutes pièces pour trouver des faux témoins, qui sera donc tué sous l'effet de toutes les manigances de la reine Jézabel, et le roi Acab faible laissera faire, et donc Naboth sera tué. Mais Naboth, c'est aussi en quelque sorte une figure christique, et donc son sang va continuer à hurler en quelque sorte, comme le sang d'Abel aussi. La violence donc qui continue à se déchaîner. Donc au verset 40, la parabole est terminée. Jésus arrête de raconter la parabole et il demande à ses hommes, lorsque viendra le maître de la vigne, qu'est-ce qu'il fera à ces vignerons-là? Alors nous pouvons aussi nous poser la question, quelle serait notre réponse? Peut-être nous aurions envie de dire aussi, il va commencer par les punir, comme diront les grands prêtres et les anciens. Mais je vous propose de nous entendre dans une prochaine émission pour lire la suite de ce récit. Merci d'avoir été avec nous sur RCF.